Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Après les violences lors de Nice-Marseille, le préfet ferme une tribune du stade de Nice pour les 4 prochains matchs en attendant des sanctions de la part de la Ligue de football professionnelle. Course contre la montre dans les opérations d'évacuation d'Afghanistan. La France demande un délai supplémentaire aux États-Unis. Des candidats au départ craignent de rester bloqués. Vous entendrez l'un d'entre eux. Vers une 3e injection de vaccin contre le Covid pour les plus de 65 ans, le gouvernement dit attendre la réponse de la Haute Autorité de Santé. Alors que plus de 2000 patients sont hospitalisés en réanimation. Pas de passe sanitaire à l'école pour cette rentrée scolaire, ni pour les élèves, ni pour les profs. Nous verrons dans ce journal les questions soulevées par cette décision de Jean-Michel Blanquer.
Europe 1.
Première réponse aux violences qui ont marqué hier la rencontre Nice-Marseille. Le préfet des Alpes-Maritimes ordonne donc la fermeture d'une tribune du stade de Nice pour les prochains matchs joués à domicile. Des bouteilles avaient été jetées hier soir sur des joueurs depuis les tribunes du stade Riviera, l'une d'elles atteignant Dimitri Payet qui avait répliqué. L'OGC Nice et l'OM sont convoqués mercredi par la commission de discipline de la Ligue, mais sans attendre, l'État prend des mesures de protection, Cyril de la Morinerie.
Oui, avant même les sanctions sportives, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de fermer la tribune populaire sud pour 4 matchs. La mesure entre en vigueur dès samedi pour la rencontre Nice-Bordeaux prévue à 17h. Mais la commission de discipline de la Ligue pourrait aller plus loin et imposer un huis clos total. Les sages pourraient également prendre d'autres mesures à titre conservatoire. Des dirigeants niçois et marseillais ainsi que certains joueurs pourraient être suspendus. L'OM espère la clémence notamment pour Dimitri Payet, le milieu de 34 ans touché au dos par une bouteille, avait relancé le projectile en direction des tribunes. Le sort de la rencontre sera également décidé. Tous les scénarios sont possibles. Confirmation de la victoire niçoise, match à rejouer, voire défaite de Nice sur tapis vert. Quant aux supporters violents, lorsqu'ils seront identifiés, la justice pourrait prononcer notamment des interdictions de stade.
Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. L'heure n'est pas à l'apaisement après ces violences qui ont marqué cette rencontre Nice-Marseille. L'OGC Nice déplore ce soir l'attitude irresponsable de plusieurs membres de l'OM. En face, écoutez la colère de Sébastien Gibrayel, le maire adjoint de Marseille en charge des sports, choqué par l'attitude de certains supporters niçois.
C'est pas acceptable. Et c'est une image vraiment désolante qu'on a pu voir. Je pense à tous les éducateurs qui, tout au long de l'année, portent des valeurs fondamentales auprès des enfants dans les clubs. Et on a ces images qui sont vraiment désolantes hier soir. C'est pas le bon exemple qu'il faut montrer. Et je soutiens le club de l'Olympique de Marseille, mais j'aurais soutenu un autre club. C'est pas, voilà, ce stade était dans une condition, il fallait qu'il soit dans des conditions optimales de sécurité. Il ne l'était pas. Des gens sont entrés sur le terrain en voulant frapper des joueurs de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on a évité un drame. J'ai vu que ça circule sur les réseaux sociaux. On a déjà leur compte Facebook, leur compte Instagram, etc. Donc, ils ont déjà été identifiés. Donc, les services de police doivent les identifier. Mais au-delà de ça, c'est la LFP, la Ligue française de football, qui doit prendre des sanctions fermes envers ces individus qui n'ont rien à faire dans nos stades.
Et Sébastien Gibrayel, adjoint au sport à la mairie de Marseille, avec Pierre Devineau ce soir sur Europe 1. Les évacuations d'Afghanistan au pas de charge alors que les talibans s'apprêtent à resserrer les taux. Demain, la France aura évacué 2000 personnes par l'aéroport de Kaboul. Vous entendrez Jean-Yves Le Drian dans un instant. Les autorités françaises surveillent étroitement le profil des réfugiés en provenance d'un pays désormais contrôlé par les talibans. Un Afghan rapatrié en France, présumé proche des talibans par les autorités françaises, a été placé en garde à vue, Damien Maistre.
Oui, il était jusque-là surveillé sous contrôle administratif dans une chambre d'hôtel de la région parisienne, mais il a violé son assignation à résidence et il est donc en ce moment, vous l'avez dit, en garde à vue selon nos informations. En fait, il y a quelques jours, juste après la prise de pouvoir par les fondamentalistes à Kaboul, cet homme est aperçu en armes dans les rues. Il contrôle même un checkpoint tout près de l'ambassade de France. Des faits qu'il ne nie pas, selon les autorités. Il aurait bien reconnu son appartenance au mouvement taliban. Une personne avec un profil visiblement accablant donc et pourtant bien rapatrié ici en France. Il faut dire que face à l'urgence et au chaos qui règne actuellement à Kaboul, les autorités le reconnaissent elles-mêmes. L'enquête de sécurité a été menée après la décision de l'embarquer. D'autant plus que cette personne avait très largement aidé les diplomates français à évacuer l'ambassade, précise le ministère. On peut donc en déduire qu'il risquait peut-être d'éventuelles représailles des talibans à Kaboul. C'est donc seulement lors de l'escale à Abu Dhabi que les services de renseignement ont ont pu mener des entretiens de sécurité et constater également que cet homme était en lien avec 4 autres Afghans qui sont eux aussi actuellement sous contrôle administratif.
Merci Damien. Paris demande aux Américains un délai supplémentaire pour les opérations d'évacuation d'Afghanistan. La France veut maintenir une présence militaire sur le sol afghan au-delà du 31 août, date butoir fixée donc par les États-Unis afin de pouvoir mettre en sécurité l'ensemble des personnes à risque. Or, Washington fait savoir ce soir que les délais seront bien tenus de son côté pour l'évacuation de ses ressortissants avant donc le 31 août. Jean-Yves Le Drian s'exprimait cet après-midi depuis une base aérienne aux Émirats arabes où l'armée de l'air française a mis en place son pont aérien avec Kaboul. Pour le ministre des Affaires étrangères, la France est bien à la hauteur du rendez-vous.
Ces efforts-là ont permis à cette heure d'organiser 14 rotations d'A400M depuis Kaboul. Demain, d'en assurer 2 autres. Et ce que l'on peut vous dire, c'est que demain, il y aura eu 2000 personnes qui auront été évacuées en un tout petit peu plus d'une semaine depuis Kaboul. C'est un exploit. D'ailleurs, chaque vol est un exploit. Ainsi, l'on peut dire que la France est au rendez-vous de la solidarité avec l'Afghanistan, même dans des conditions aussi difficiles.
Selon le dernier décompte du Pentagone, 16 000 personnes ont été évacuées d'Afghanistan par l'aéroport de Kaboul au cours des dernières 24 heures. Kaboul, où de nombreux Afghans espèrent encore être évacués. Parmi eux, cet ancien employé du gouvernement renversé par les talibans et qui désespère d'être exfiltré à mesure qu'approche la date butoir du 31 août.
Je n'ai même pas essayé d'aller à l'aéroport. Il y a beaucoup trop de monde et c'est vraiment très dangereux. Je ne suis plus chez moi, je suis caché actuellement. J'aimerais que les pays occidentaux comme l'Europe ou la France nous aident, même ceux qui n'ont jamais collaboré, qu'ils aident tous les Afghans qui ont travaillé avec le gouvernement ou qui sont des activistes. Nos vies sont en danger. J'ai très peur parce qu'il y a énormément de monde et que d'ici le 31, nous n'aurons jamais le temps de tous être évacués. J'espère qu'il pourra y avoir un délai.
En France, des mouvements de solidarité s'organisent, comme dans les Hauts-de-France, où une cinquantaine de réfugiés afghans sont arrivés. À Lille, la mairie a lancé une collecte de produits de première nécessité. Reportage Europe 1, Maximilien Carlier.
Bonjour. Ah bah parfait, des produits sanitaires impeccables. Impeccable. Bah merci beaucoup, madame.
Geneviève vient de déposer dans l'hôtel de ville 2 sacs plastiques pour des réfugiés afghans.
Des serviettes périodiques pour les femmes, des brosses à dents, du dentifrice, du shampoing.
Depuis ce matin, un peu moins de 300 Lillois ont donné, comme Sandrine, qui a vidé son placard.
C'est important parce qu'on se met à leur place, on se dit que si c'était nous, on aimerait bien que quelqu'un nous aide. Et moi-même, je suis issue de l'immigration et je sais que mes parents, quand ils sont arrivés, ils n'avaient rien. Donc on essaie de redonner un peu de ce qu'on nous a donné aussi.
Et sur des tables, on voit des piles de t-shirts, pulls, baskets, jouets pour enfants, des milliers d'habits qu'il va falloir trier à destination des 53 réfugiés afghans qui ont précipitamment quitté leur pays. Martine Aubry, la maire de Lille.
Ils sont partis sans rien. J'ai vu que les Français en général pensaient que c'était dangereux de recevoir ces personnes. Dès qu'ils les connaîtront, et s'ils les connaissaient, ils verraient que ce n'est pas ça le sujet, que la moindre humanité, c'est d'ouvrir nos bras. Il faudrait que tout le monde le fasse, et même une petite ville peut accueillir une famille. On ne demande pas d'accueillir tout l'Afghanistan. Donc moi, ce que je voudrais, c'est dire une fois de plus un grand merci aux Lilloises et aux Lillois.
Et cette collecte va s'étendre jusqu'à vendredi, ici à l'hôtel de ville. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Plus de 2000 patients atteints de Covid actuellement hospitalisés en réanimation. Ils étaient moins de 1000 avant le 7 juillet dernier. Un pic pourrait être atteint dans quelques jours, éloignant ainsi le risque d'une saturation des hôpitaux. 71% de la population entièrement vaccinée en France métropolitaine. Pour la rentrée de septembre, le gouvernement se prépare à mettre à disposition un rappel vaccinal, une troisième dose, proposée sans attendre à une partie de la population. Olivier Véran, le ministre de la Santé.
La Haute Autorité de Santé va nous informer bientôt sur la question de la troisième dose de vaccin, qui est une question que se posent aussi les Français, puisque j'ai saisi la Haute Autorité de Santé au cœur de l'été pour qu'elle nous réponde sur cette question. Je rappelle brièvement, la troisième dose, c'est de se dire, une fois que vous avez eu deux doses, vous êtes protégé, mais la protection conférée par le vaccin, elle peut diminuer au fil du temps, au fil des mois, et il faut donc proposer une troisième injection à celles et ceux qui sont les plus fragiles. J'attends l'avis de la Haute Autorité de Santé, mais je postule pour une fois, je prends un petit risque, qu'elle nous dira probablement de faire cette troisième injection chez toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, qui sont les personnes qui sont traditionnellement appelées à se faire vacciner contre la grippe. Et donc, sans attendre, j'ai demandé à mes équipes, à mes services, de mettre en place ce programme de troisième dose pour toutes celles et ceux qui en relèvent. Ce ne sera pas une obligation, je le rappelle, mais ce sera une incitation forte pour que cette protection acquise par la vaccination dure. On ouvrira la possibilité d'avoir cette troisième injection dès le début septembre, pourquoi pas.
La rentrée scolaire 2021 à l'approche, toujours sous l'emprise de la crise sanitaire. Avant sa conférence de rentrée prévue ce jeudi, Jean-Michel Blanquer a dévoilé dans le journal du dimanche le protocole sanitaire à l'école à compter du 2 septembre. Les élèves iront en classe tous les jours en effectif complet, port du masque à l'intérieur des classes, respect des gestes barrières. En revanche, pas de passe sanitaire pour les profs, ce qui soulève des questions au CNTA.
Oui, le débat n'est pas tranché. D'abord, du côté des professeurs, l'idée d'un passe sanitaire est loin de faire l'unanimité. Pour Guylaine David, porte-parole du SNUIPP-FSU, un des syndicats des enseignants du primaire, sa mise en place pourrait rapidement tourner au casse-tête.
Il n'y a aucun moyen pour nous de vérifier les passes sanitaires. On n'est pas habilité à vérifier les passes sanitaires, donc ce serait compliqué dans nos établissements, dans nos écoles. L'obligation du pass sanitaire, forcément, aurait contraint certains enseignants à ne pas venir travailler. Donc on ne pouvait pas être dans cette obligation.
En revanche, du côté des médecins, le pass sanitaire est jugé utile. C'est même la moindre des choses pour empêcher une nouvelle explosion des cas à la rentrée des classes. C'est l'avis, par exemple, du professeur Jean-Paul Stahl. Il est spécialiste des maladies infectieuses à l'université de Grenoble.
Ce sont des personnes qui sont en contact avec du public et le virus peut circuler dans ces conditions-là. Mais plus que le pass sanitaire, moi je serais pour une obligation de vaccination.
Et une réunion est prévue dès mercredi entre les syndicats enseignants et le ministère de l'Éducation nationale pour préciser les contours d'une nouvelle rentrée sous Covid.
Océane Théard, la Polynésie française se reconfine pour 2 semaines. Elle subit à son tour une nouvelle flambée de Covid sous l'effet du variant Delta. Les derniers rapports montrent une explosion des chiffres à Tahiti et dans l'archipel du Pacifique. Le taux d'incidence atteint les 3000 cas pour 100 000 habitants. C'est plus de 10 fois la moyenne nationale. L'incendie qui a ravagé près de 7000 hectares dans le Var est maîtrisé, mais il faudra plusieurs jours pour qu'il soit déclaré éteint. 400 pompiers restent à pied d'œuvre. Le Var, où un homme de 56 ans a été arrêté par des automobilistes le week-end dernier, alors qu'il tentait de provoquer un incendie. Il devait être jugé en comparution immédiate. Finalement, une enquête est ouverte pour incendie volontaire en raison du profil du suspect, Justin Morin.
Effectivement, c'est un homme de 56 ans, décrit comme mentalement diminué, mais tout de même en capacité d'être présenté à la justice. C'est ce qu'a précisé le parquet de Draguignan en charge de l'enquête. Vu la complexité de son profil, le procureur a préféré ouvrir une enquête et prendre un peu plus de temps plutôt que de passer par la comparution immédiate. Alors à ce stade, aucun lien n'est fait entre cet événement et l'incendie qui a ravagé le massif des Maures la semaine dernière. Vu ce contexte, l'ouverture d'une information judiciaire doit aussi permettre aux enquêteurs de faire les vérifications nécessaires. Sur le mode opératoire, là on en sait un peu plus. Le suspect a lancé un début d'incendie avec une bûche enflammée. 7 mètres carrés ont pris feu dans la forêt aux abords de la départementale 559 qui longe la côte varoise. Heureusement, des automobilistes qui passaient par là se sont arrêtés et ont réussi à sortir cette bûche puis à éteindre le feu avec des bouteilles d'eau et des tapis de voiture. Ce sont également eux qui ont réussi à arrêter le suspect jusqu'à l'arrivée des gendarmes.
Justin Morin. La météo, Marlène Duret, on échappe globalement aux perturbations. C'était un début de semaine plutôt calme.
Oui, Alexandre, osons même le dire, un début de semaine estival avec de belles éclaircies, voire un beau soleil. Et ça va concerner de très nombreuses régions. Alors au lever du jour, des plaques de grisailles seront présentes entre le Cotentin et la Bretagne. Un ciel bien gris s'étendra aussi de l'Auvergne et du Lyonnais, au Berry, au Limousin et même jusqu'au Poitou. Mais les éclaircies finiront par prendre le dessus dans toutes ces régions. Des Alpes à la Provence, le temps va tourner à l'orage. Les nuages pourraient atteindre même le littoral de la Côte d'Azur. Le risque orageux est également valable pour la montagne Corse et les Pyrénées, notamment sur le relief des Pyrénées-Orientales. Les températures accuseront une baisse en fin de semaine, mais d'ici là, prévoyez des valeurs de saison, comprises entre 20 degrés à Cherbourg et 30 à Perpignan, avec 23 à Lille, 24 à Paris ainsi qu'à Clermont-Ferrand, 26 à Lyon, 27 du côté de Toulouse ou encore 29 degrés à Marseille.
Merci Marlène Duret, on vous retrouve à minuit sur Europe 1 pour un dernier point météo. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, c'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître, à suivre l'invité éco d'Emmanuel Duteil et puis on jettera un coup d'œil ensemble aux unes de la presse pour demain matin. A tout de suite.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
22h16 sur Europe 1, Top à Wall Street avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street termine donc en forte hausse ce soir. Les craintes de la semaine dernière semblent déjà oubliées chez les investisseurs.
Oui, les marchés ont souffert la semaine dernière avec des craintes liées à la crise sanitaire mais aussi à la Fed, la réserve fédérale américaine, alors que sa politique pourrait bientôt devenir moins souple, moins généreuse qu'au cœur de la crise. Ça va donc mieux ce soir avec un Dow Jones qui reprend 0,31%, 35 335 points. Le Nasdaq, lui, bondit de 1,55%. Le Nasdaq qui monte grâce aux stars de la tech. Apple gagne 1%, Facebook plus 1,1%, plus 2% pour Amazon. Et puis forte hausse également du côté de la santé pour les laboratoires Pfizer et BioNTech. Leur vaccin avait reçu en décembre une autorisation d'urgence pour le marché américain. Et là, c'est une autorisation définitive pour le vaccin qui a été administré à plus de 200 millions de personnes aux États-Unis. Pfizer en profite et bondit de 2,5%. BioNTech grimpe de plus de 9%.
Le pétrole aussi se reprend après une longue série de séances dans le rouge, Claire.
Oui, le pétrole qui sort de 7 séances de baisse, il a chuté de près de 8% et il remonte comme les marchés actions. Le baril de brut WTI grimpe de 5% ce soir à New York, il est à 65,56 $. Du côté des devises, le dollar recule et l'euro est en hausse, plus 0,4%. 1,1750 $ pour l'euro. Un mot aussi du Bitcoin qui retrouve lui aussi des couleurs. Il a franchi aujourd'hui le seuil des 50 000 $ pour la première fois depuis le mois de mai. Alors il est un petit peu redescendu ce soir autour de 49 500 $ pour un Bitcoin.
Et à Paris, l'or est également à l'optimisme pour le CAC 40 après une semaine très agitée.
Oui, la pire semaine de l'année pour le CAC 40 qui a perdu près de 4%. Il reprend 0,86%, 6 683 points. Le CAC 40 porté surtout par ses poids lourds du luxe. Ce sont des valeurs qui ont particulièrement souffert la semaine dernière. LVMH rebondit de 2,7%, plus 3% pour Hermès et pour Kering. Et du côté des baisses, l'action française des jeux recule alors que Goldman Sachs conseille de vendre la valeur, moins 1,7% pour FDJ. Ailleurs, en Europe, c'est un début de semaine optimiste pour les marchés. Londres gagne 0,3%, plus 0,3% aussi pour le DAX à Francfort, Milan plus 0,5%, Madrid plus 0,6% et le CAC 40 gagne 0,9%, 6 683 points.
Top à Wall Street sur Europe 1. Merci Claire Lemaître. Restez avec nous dans quelques instants sur Europe 1. L'invité éco ce soir, donc sur Europe 1, Henri Giscard d'Estaing, PDG du Club Med, qui était l'invité à la mi-journée de La France Bouge. Il répond aux questions d'Emmanuel Duteil et d'Elisabeth Assayag.
Bonjour Henri Giscard d'Estaing.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG du Club Med. Club Med existe depuis 70 ans, près de 65 villages partout dans le monde. 25 000 collaborateurs. C'est la première fois que vous prenez la parole pour faire le bilan de cet été, un été un peu particulier, hein, un été à regarder de près, parce qu'avant le Covid, l'été 2019 pour Club Med avait été exceptionnel. Alors comment ça s'est passé, là, cet été 2021?
C'est un été qui est encourageant. Ce n'est pas un été encore facile, puisque nous avons certes pu ouvrir un peu plus de 40 Club Med dans le monde, mais il y a deux ans, c'était 51, et l'année dernière, ce n'était que 27. Donc, en réalité, nous avons pu augmenter notre capacité à recevoir nos clients de près de 100%, ce qui est une différence importante.
Vous êtes un groupe mondial, vous êtes à peu près dans toutes les zones touristiques, hein, de la Chine aux Amériques, si on prend ça au global. Où est-ce que ça a le mieux fonctionné sur ces 41 villages ouverts, hein?
Alors, il y a, je dirais, là d'où viennent les clients et puis là où ils vont. Si on dit là d'où ils viennent, le marché qui a repris le plus fort, c'est le marché américain. Les Américains, depuis en gros 6 mois, ont décidé de revoyager sous l'effet sans doute de la campagne de vaccination. Et donc, ils sont allés pour l'essentiel dans nos clubs Med des Caraïbes, où ils sont pour eux une destination naturelle. Et puis, le marché français, il est bien reparti. Mais ce n'est qu'en mai et juin qu'on a vu ce redémarrage, qui a été puissant, puisqu'on a eu sur cette période-là des augmentations de nos réservations qui étaient de près de 40%, supérieure à ce qu'elle avait il y a 2 ans.
Donc même mieux reparti qu'en 2019.
Alors, il est mieux reparti qu'en 2019, mais il avait pris du retard. Puisque,
mais vous êtes en train de le rattraper, là, d'après ce que vous nous dites.
Alors, on en a rattrapé une partie. Nous serons malgré tout, puisque d'abord, nous ne pouvons pas ouvrir tous nos clubs Med dans le monde. Il y a des régions du monde, y compris d'ailleurs des parties françaises, les Antilles françaises, que nous avons ouvertes puis refermées à la Guadeloupe et à la Martinique. Donc, par conséquent, on ne peut pas accueillir autant de clients qu'en 2019. Nous serons en retrait par rapport à 2019, mais de manière limitée.
C'est ça, parce que quand un commerçant, entre guillemets, si je peux vous présenter ainsi, dit un été satisfaisant, généralement, c'est que c'est mieux que ce qui était prévu. Est-ce que c'est le cas quand même? Est-ce que si on s'était vu en avril, si le bilan était celui qui est celui d'aujourd'hui, vous vous diriez, bah ouais, on a fait un poil mieux quand même que ce qu'on pensait à un moment?
Ah, oh, on a fait même plus qu'un poil mieux, parce qu'en avril, on était encore tous enfermés.
Bien sûr.
Donc, et on ne savait pas ce qui allait se passer. Il n'y avait pas encore le pass sanitaire, des bonheurs là-dessus, et on n'avait pas encore l'idée que la vaccination pouvait quand même aider les choses. On n'avait pas le Delta non plus.
Justement, c'est intéressant ce que vous nous dites là, Henri Giscard d'Estaing. Vous venez d'évoquer le pass sanitaire. Il faut le rappeler à nos auditeurs, vous avez été très précurseur sur cette histoire de pass sanitaire. Parce que vous, dès le début, il y a 3 mois, avant que tout le monde n'en parle, vous avez avancé vos pions comme ça. Vous avez dit, nous, on va ouvrir nos resorts, comme vous dites, on va ouvrir nos villages avec la mise en place d'un pass sanitaire. Ça n'avait pas été très bien accueilli d'ailleurs.
Alors, ça avait été bien accueilli par nos clients.
Oui, par les clients.
On l'a mis en place pendant une semaine avant que le Parlement décide et le gouvernement autrement. Et nos clients l'avaient très bien compris et très bien accepté parce qu'ils voyaient que c'était une mesure qui pouvait leur permettre de passer des vacances l'esprit libre.
Et dans le fond,
de quoi a-t-on envie ? C'est de pouvoir enfin partir en vacances et le faire dans les meilleures conditions de sécurité. Et puis, je m'en réjouis, finalement, le gouvernement, le Parlement a décidé de le mettre en œuvre. Et donc, nous l'appliquons et je pense que c'est une mesure qui est tout à fait appropriée dans ces circonstances.
C'est la bonne mesure qu'il fallait mettre en place. C'est-à-dire que vraiment, vous avez l'impression que ça rassure les clients, mais aussi vous, c'est-à-dire vos équipes, parce qu'à un moment, on prend soin un peu plus de tout le monde quand c'est ça?
Ah, c'est une mesure, je le crois, nécessaire. Nous sommes encore dans un environnement sanitaire compliqué, on le sait. Il faut prendre des précautions, surtout lorsque, justement, on veut assurer des vacances heureuses et où chacun peut vivre l'expérience qu'il souhaite. Alors, il ne faut pas se contenter de ça. Nous avons un protocole sanitaire très rigoureux, l'appel ensemble en sécurité, qu'on avait en été mis en place dès l'été dernier, qu'on a maintenu, parce que ce sont quand même des situations dans lesquelles...
Mais qu'est-ce que ça change concrètement, là, le ensemble en sécurité, quand on va... au Club Med, parce que le Club Med, c'est quand même faire du sport ensemble, c'est quand même manger dans de certes grandes salles de restauration, mais on va tous au buffet ensemble. Qu'est-ce que ça change dans l'expérience Club Med? Parce que c'est votre défi à vous et à plein d'autres dans le secteur du tourisme. Il ne faut quand même pas dégrader, surtout que bon, ça coûte quand même très cher d'aller au Club Med, donc ce serait bien que ça ne dégrade pas l'expérience quand même.
Alors par exemple, ça nous a conduit à ouvrir nos restaurants plus longtemps pour pouvoir étaler leur fréquentation.
Donc ça veut dire qu'il y a des jauges dans les restaurants des villages Club Med?
Il y a de fait des jauges, enfin l'application notamment des distances entre les tables, de nombre de personnes à table.
Donc alors, c'est fini, c'est plus l'époque où tout le monde vient s'asseoir à la même table et on discute avec les uns et les autres que nous ne connaissons pas forcément.
Non, mais ça avait déjà changé depuis longtemps.
Donc, non, pas partout. Hein.
Alors, pas partout, mais cette notion de convivialité reste simplement, on l'a adapté. Ça nous a conduit, par exemple, à faire évoluer notre formule de buffet pour passer... Alors, assez systématique à ce qu'on appelle le service à l'assiette, puisque ça évite de manipuler les ingrédients et les risques que ça peut représenter. Ça nous a conduit, en termes d'ambiance et d'animation, à créer plusieurs types d'ambiance et d'animation dans le même lieu. Nos clubs mètres sont vastes, ils ont de très beaux espaces et de grands espaces. Plutôt que de mettre tout le monde ensemble, ce qui n'est pas l'idéal dans ces circonstances, de les répartir. Donc, paradoxalement, ce sont, je crois, des progrès. Ils ont été d'ailleurs plutôt ressentis comme ça par nos clients. Alors ensuite, il y a les contraintes, le masque à l'intérieur, etc. Il faut être réaliste.
Vous disiez que du coup, grâce à tout cela, en partie, en France, ça a bien marché cet été. Plus que jamais, vous avez été sur des réservations de dernière minute, quelques jours avant, en fonction des places que vous aviez disponibles. Vous avez eu des réservations inédites, entre guillemets.
Alors, la reprise s'est faite, je l'ai dit, en mai-juin. Où là, on a donc retrouvé des niveaux de réservation très nettement supérieurs à ce qu'ils étaient en mai-juin d'il y a 2 ans. Mais qui partait d'une base quasiment de zéro, parce que les gens ne savaient pas en avril qu'ils pourraient même partir en vacances. Ensuite, tout au long de cet été, on a vu en effet des réservations de dernière minute. Mais, je dois le dire, c'est quand même pour nous une bonne nouvelle, on a été plus en mesure de les accueillir, qui le nécessitaient.
Des années maintenant, pour ne pas dire des dizaines d'années que vous êtes au Club Med, vous avez traversé des crises, parfois extrêmement compliquées, pas sanitaires, mais le terrorisme ou autre, qui a souvent eu des impacts extrêmement importants sur votre activité. Est-ce que c'est la plus dure, là, la crise sanitaire que nous traversons, que vous ayez eu à traverser? Parce que vous prenez l'exemple des Antilles, à un moment on pensait que ça allait marcher cet été, et là, du jour au lendemain, il faut rapatrier tout le monde?
Oui, c'est la mère de toutes les crises pour le tourisme. Il y a un peu plus d'un an, enfin, nous avons dû fermer dans le monde tous les Club Med. Il y a eu une semaine en avril 2020, où pour la première fois depuis 70 ans d'existence du club, tous les Club Med étaient fermés. Vous imaginez ce que c'est qu'une entreprise qui doit entièrement fermer, et en plus très rapidement. Ensuite, c'est très difficile et chaotique, parce que ça change de manière permanente. Et je pense notamment à nos clients, qui doivent faire face à des incertitudes, parce que ces incertitudes, nul ne les maîtrise. Alors, notre rôle, c'est de les accompagner.
Voilà, c'était donc Henri Giscard d'Estaing, le PDG du Club Med. Il répondait aux questions d'Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Elisabeth et Emmanuel, on vous retrouve donc demain pour La France bouge, de 13h à 14h sur Europe 1, émission consacrée à la rentrée scolaire. Votre invité, le patron de Bureau Vallée, enseigne spécialisée dans les fournitures de bureaux et la papeterie.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Allez, jetons un coup d'œil ensemble aux unes de la presse de vos quotidiens demain matin. J'ai d'abord sous les yeux Le Figaro. Le Figaro qui s'interroge sur le devenir du télétravail. Et oui, parce que le retour des salariés, vous êtes sans doute nombreux déjà à rentrer de vacances, le retour des salariés va virer au casse-tête. Après 18 mois de contraintes sanitaires, relève Le Figaro, les entreprises espèrent bien retrouver une organisation normale. Sauf que le variant Delta est là pour leur compliquer la tâche. Les réunions en présentiel avec toutes les équipes pourront-elles se tenir à la rentrée? Pourra-t-on retrouver une vie collective normale sur son lieu de travail? Rien n'est moins sûr. Note Le Figaro qui plaide vite dans l'éditorial de Gaëtan de Capelle pour un retour à la normale. Le Covid également à la une de Libé. Le Covid chez les jeunes. Ce qu'il faut savoir donc entre hospitalisation, gravité de la maladie chez les enfants, vaccination des plus jeunes et mesures sanitaires à l'école. On vous en parlait ce soir sur Europe 1. Hein. Jean-Michel Blanquer a dévoilé dans le JDD hier le protocole sanitaire pour la rentrée. Le mot d'ordre, c'est l'école pour tous, pas de passe sanitaire exigé, ni pour les élèves, ni pour les profs. À la une de West France pour cette édition de mardi, donc les Jeux paralympiques de Tokyo avec un double enjeu pour la France. Coup d'envoi de ces Jeux paralympiques ce mardi qui se dérouleront donc jusqu'au 5 septembre. La délégation française vise 35 médailles. Des médailles également qu'on espère pour ces Jeux paralympiques à la une de l'Humanité, l'UMA, qui relève que le monde se prend au jeu. Les compétitions qui démarrent ce mardi à Tokyo, écrit le quotidien, devraient battre tous les records d'audience, signe d'un attrait grandissant pour cette compétition. Question également à la une de l'UMA, faudra-t-il vacciner les enfants de moins de 12 ans? Très contagieux, le variant Delta se répand chez les plus jeunes. À la une des Échos, enfin, l'activité qui résiste au pass sanitaire, l'extension du pass sanitaire, n'a pas eu d'effet majeur sur l'activité économique, relève les Échos. Bruno Le Maire qui réitère l'objectif de renouer avec le niveau d'activité d'avant-crise dès la fin de 2022.